À peine trois mois après le lancement de Santé Québec, le numéro 2, Frédéric Habergel est congédié. Bon, on peut aussi lire dans certains médias que c'est une entente des deux parties.
Bref, ça ne fonctionnait pas entre la Top Gun, Mme Biron, et Frédéric Habergel, qui était le numéro 2 de Santé Québec.
Sur le terrain, est-ce que ça nous surprend? Est-ce que ça aura un impact? Est-ce que ça change les choses au quotidien? On va jaser de tout ça avec Pascal Renault, qui est président de l'Association des médecins omnipraticiens de Québec. Il est au bout du fil. Bon matin, Pascal.
Bon matin.
Merci d'être avec nous tôt ce matin. On le sait que tu as un horaire particulier, une journée bien chargée. C'est très apprécié, cher ami.
Ça fait plaisir.
Peut-être commencer, Pascal, avec tes impressions concernant le congédiement surprise de Frédéric Habergel.
Oui, ben en fait, j'ai été surpris un peu comme tout le monde. Ça fait à peine trois mois là, que Santé Québec est sur les rails officiellement. Puis on voit déjà un départ de quelqu'un de quand même assez important dans l'organisation là, qui était le numéro 2.
Est-ce que puis on va revenir évidemment au congédiement de M. Habergel, mais juste avant, depuis le début et le lancement de Santé Québec, avez-vous vu une différence déjà sur le terrain?
Sur le terrain, non, je vois aucune différence. En fait, s'il y a une différence, elle est surtout négative dans le sens où ils ont eu un mandat là, de couper 1,5 milliard de dollars là, en santé. Mm-hmm. Puis ce qu'on voit, c'est des postes d'infirmières là, de moins, des... Pour l'urgence où je travaille, souvent, il y avait des lits supplémentaires qui pouvaient être ouverts là, dans un corridor, mais qui étaient quand même des civières pour les patients. Actuellement, c'est très rare qu'on ait assez de personnel infirmier pour les ouvrir. Donc, les ambulanciers qui arrivent passent souvent 3-4 heures avec le patient sur une civière d'ambulance là, dans l'entrée de l'urgence avant qu'un lit leur soit octroyé. Là.
Et ça, Pascal, corrige-moi si je me trompe, mais ça doit amener des problématiques également au niveau des paramédics parce que le délai de réponse au Québec est parmi un des plus faibles au Canada.
Ben, c'est sûr que si un ambulancier reste avec un patient pendant 3 ou 4 heures dans la salle d'urgence, ben, il n'est pas en train d'aller chercher d'autres patients. Là. C'est certain que ça augmente les délais.
Pascal, est-ce que tu crois que ces changements-là, puis là on parle de trois mois là, pour ce qui est de Santé Québec. Mais ce changement-là et le fait que le numéro 2 de Santé Québec quitte le navire, est-ce que ça va avoir un impact ou va faire quelque chose de différent dans votre quotidien?
Dans notre quotidien, à court terme, je pense pas. Par contre, son rôle, M. Habergel, c'était vraiment là, d'être aux opérations et à la transformation. Donc, c'est lui qui était le plus près là, des PDG des établissements, qui était le plus près de toutes les ressources terrain. Donc, j'ai hâte de voir comment Mme Biron va être capable de parler avec les PDG des établissements parce que elle connaît beaucoup moins le réseau. Là. Elle est issue du privé, tandis que M. Habergel était celui qui connaissait tout le monde là, dans le réseau. Donc, j'ai hâte de voir comment elle va être capable de s'en sortir.
Ben oui, M. Habergel, si, corrige-moi si je me trompe, Pascal, était quoi le directeur général du CHUM à Montréal?
Exact, il était PDG du CHUM, là, du CHUM avant de faire la transition vers Santé Québec.
Avez-vous des inquiétudes, Jean-Pascal, sur le terrain, le fait que, je vais le dire comme ça, la grande tête pensante du régime public quitte Santé Québec et c'est Mme Geneviève Biron, spécialiste du privé en santé, qui se retrouve avec les coups des franches?
Bon, des inquiétudes, je ne sais pas, parce que comme je vous dis, j'ai pas vu grand changement positif là, qui pourrait disparaître là, avec le départ de M. Habergel. Par contre, ben, une certaine crainte de voir qu'est-ce qui va se passer avec quelqu'un qui connaît beaucoup moins le réseau, qui est à la tête, là, puis qui joue le rôle du numéro 1 et numéro 2 en même temps. Oui, une certaine petite crainte.
Est-ce que ça vient montrer ce désaccord-là, vraisemblablement, qui a mené au départ de M. Habergel? Ça vient montrer que changer les choses, ça va être excessivement difficile parce que là, on se rend compte aussitôt qu'il semble y avoir un petit désaccord puis que quand justement un choc privé-public où on ne sait pas trop encore, peut-être qu'on va en savoir plus, mais est-ce que ça vient montrer à quel point ça va être tough de changer les choses?
Ben, changer quelque chose dans le régime public actuellement, c'est tough à la base. Là. Peu importe qu'il y ait une structure de Santé Québec ou non. La seule chose que j'ai l'impression de constater, puis vous vous rappelez, j'étais un des fervents là, supporters du fait que Santé Québec arrive et dépolitise le système. Oui. Par contre, dès décembre, là, le 1er décembre, c'était le début du travail de Santé Québec officiellement. Puis le 15 décembre, le ministre les a réprimandés sur la façon de faire les coupures qu'ils leur ont imposées. Donc, de plus en plus, je crois que c'est une barrière supplémentaire avant d'atteindre les politiciens, puis le ministre Dubé particulièrement.
Pascal, voilà deux semaines, notre infirmière Jenny Boutet est passée nous voir, puis il n'est pas facile pour les infirmières de ce temps-ci. L'ambiance, pas top. Comment tu vois, toi, le moral des troupes, l'ambiance sur le terrain en ce moment?
En fait, il y a beaucoup de travail, là. Puis moi, je vais parler pour la salle d'urgence, mm-hmm. parce que c'est ce que je connais. Il y a excessivement de travail là, depuis le début de l'année. L'influenza est très fort cette année. Puis les gens sont malades, ce qui occupe nos civières, ce qui occupe notre personnel. Donc, on a pas beaucoup de temps de se plaindre parce qu'on s'occupe des patients actuellement. Là.
Pascal, et en terminant, si je me trompe pas, dans le fond, avec ce que tu nous expliques, Santé Québec, c'est une machine qui est venue encore une fois centraliser les pouvoirs au détriment, justement, des gens qui travaillent sur le terrain jour après jour pour soigner les Québécois.
Ouais, actuellement, ça ressemble à ça. Puis le but était, puis tous les systèmes là, mondialement qui sont les plus performants, c'est lorsque c'est pas centralisé. C'est lorsque c'est des soins de proximité avec une gouvernance de proximité qui est établie. Là. Donc, j'espère que ça sera... Puis c'était un des buts initialement de Santé Québec. Mm-hmm. Par contre, ça n'a pas l'air de se passer de cette façon-là pour l'instant.
Hey, Pascal, j'ajoute une petite dernière. Santé Québec, c'est-tu un projet, c'est-tu quelque chose qui tient la route, qu'on va voir pendant plusieurs années ou dès qu'un nouveau gouvernement est au pouvoir, Santé Québec, c'est quelque chose de la CAQ puis ça va prendre le bord?
Aucune idée. Okay. Je sais pas qu'est-ce que les politiciens vont prendre comme décision, là, mais si j'étais politicien mm-hmm. actuellement, ben compte tenu que c'est une muraille de plus avant de les atteindre, peut-être que j'aurais le goût de la garder.
Vu de même, hein? Pascal Renaud, président de l'Association des médecins omnipraticiens de Québec. Merci, Pascal, puis bonne journée, à bientôt.
Ça fait plaisir, bonne journée.
Bye. Salut, bonne journée.
La fin, ça dit tout. Hein? Si t'es politicien, puis la muraille Santé Québec est là pour te protéger.
Ouais.
Peut-être que tu vas la garder.
Peut-être que ça va changer en raison d'une enquête publique à la SAC, sait-on jamais? Parce que souviens-toi, on s'est protégés. Hein? Hey, on a été floués. Tout le monde a été floué là-dedans. Bon, finalement, les ministres ont pris des décisions. Mais c'est vrai que, tu sais, puis là, la SAC existait avant l'arrivée de la CAQ. Mm-hmm. Mais depuis l'arrivée de la CAQ, on a tendance à créer ces structures-là pour se protéger. On se protège en santé, on se protège en transport en commun avec mobilité infra qui voit le jour. Puis même avant mobilité infra, dans les grands travaux d'infrastructure de transport en commun, on se cache derrière la caisse de dépôt, section infrastructure, on se cache derrière des consortiums étrangers comme Alstom. Tu sais, ça va pas bien au REM, là. T'entends jamais Geneviève Guilbeault, la ministre, dire « Ouais, j'ai peut-être une part de responsabilité non, là-dedans. »
On aime les murailles.
T'entends jamais la STM j'oublie le nom, là, mais l'Association de transport de la grande région de Montréal. Tu n'entends jamais des médias dire « Ouais, le REM, c'est peut-être aussi notre faute, hein? On contribue à ça. » Non, c'est la caisse de dépôt section infra qui prend tous les coups, puis nous autres, ben, on se cache derrière ça, même si on fait du mauvais travail.
Ben, c'est peut-être pas mal plus facile de faire de la politique quand on est... quand on est entouré de murailles comme ça?
Ben oui, parce qu'on sera jamais imputable de rien.
Ouais.
Fait que c'est pas grave si ça marche pas. Pas de ma faute.
OK. 7h01, on fait une courte pause à Rage Against le matin. Après la pause, on annonce le nom de la personne gagnante pour les passes pour aller au Salon de l'Auto de Québec qui commence aujourd'hui. On va jaser politique pas mal aussi, entre autres avec notre chroniqueuse politique Jacinthe Eve Harel, mais on va bien sûr parler des tarifs Donald Trump, à savoir comment ça va avoir un impact sur nos entrepreneurs, mais aussi sur notre portefeuille. Rage.